Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Maxime Verrier.
Et aujourd'hui, c'est également la journée internationale du droit des femmes. Et nous sommes avec notre invitée Aurore Juvenel, qui est guide pour Dédale. On vous avait décidé de mettre à l'honneur des femmes oui. qui sont enterrées au cimetière du Père Lachaise. Vous avez décidé de mettre à l'honneur trois femmes.
Oui.
Il y aura donc Héloïse,
oui.
qui était en couple au Moyen-Âge avec Abélard.
C'est ça.
Une superbe histoire que vous allez nous raconter.
Oui.
Il y aura également Madame Sans Gêne. Mm-hmm. Vous allez nous dire pourquoi on l'appelle comme ça.
Oui, parce que c'est pas moi qui l'ai appelée.
Oui, je sais. Et on aura Gerda Taro, qui est la première photo reporter de guerre.
Absolument. Connue en tous les cas. Et qui est la première photo reporter de guerre morte au combat.
Ah oui, donc.
Oui, c'est du sérieux.
Oui, donc c'est du sérieux aujourd'hui à l'occasion de cette journée internationale du droit des femmes. Aurore Juvenel, ce couple mythique, Héloïse et d'Abélard, ils ont vécu à quelle époque environ?
Alors, ils ont vécu au XIIe siècle. Ils ont vécu au XIIe siècle. Et ce qui est intéressant au Père Lachaise, c'est que c'est un mausolée, c'est un grand bâtiment, justement, qui a été transféré là avec leurs ossements qui ont été transférés à cet endroit-là. Donc, c'est tout à côté de l'entrée et on en parlera tout à l'heure.
Eh oui, juste après Kylie Minogue à l'occasion de ce Woman Music in Days et c'est sur France Bleu Paris. Vous êtes dans la cuisine autour de la table du petit déjeuner puisqu'il est 9h36, vous avez fait la grasse matinée et vous chantiez nanana, nanana, nanana. C'était Kylie Minogue sur France Bleu Paris à l'occasion du Woman in Music Days.
Sur France Bleu Paris, le week-end est à vous.
Et à l'occasion justement de cette journée internationale du droit des femmes, Aurore Juvenel est notre invitée, elle est guide pour Dédale. Aurore, vous nous présentez un couple mythique qui a mis en lumière le cimetière du Père Lachaise. C'est un couple qui a vécu à peu près au Moyen-Âge.
Oui, c'est ça. Alors, au XIIe siècle, il s'agit donc de Héloïse et Abélard. Et évidemment, là, je vais plus m'intéresser à Héloïse, évidemment, puisque c'est le sujet. Et ce qui est intéressant, donc, comme je commence à le dire, c'est que dans l'histoire du Père Lachaise, c'est un moment qui est très important, puisque le cimetière ouvre en 1804. Il est à l'extérieur de Paris. Mmh. Et tout le monde s'en fiche de ce cimetière. Personne ne veut se faire enterrer là. Et du coup, la ville de Paris se dit, il faut qu'on trouve un truc, il faut qu'on fasse un coup. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont transférer les restes d'Héloïse et Abélard, qui est un couple mythique du Moyen-Âge, avec une histoire terrible, qui se passe très mal. Et à partir de là, effectivement, eh ben, le cimetière du Père Lachaise va faire un carton, si on peut le dire, enfin, comme ça.
Et donc, qui était ce couple?
Alors, au départ, donc Abélard était très connu puisque c'était un professeur théologien de philosophie à l'école cathédrale de Paris, donc au XIIe siècle. Voilà, bon, je pars pas dans des considérations théologiques
mais
maintenant.
Héloïse.
Et donc voilà, Héloïse et donc était une jeune fille qui avait été entre guillemets adoptée par son oncle le chanoine Fulbert, et c'était une jeune fille qui était très cultivée, qui voulait plus ou moins rentrer dans les ordres, qui était extrêmement cultivée. Alors dans les textes, elle savait chanter, elle écrivait des poèmes, elle était vraiment très, très, très cultivée. Et donc, elle a comme professeur Pierre Abélard, hein, et ce qui va se passer, ben, c'est que ces deux gens-là vont
coup de foudre.
Bah oui, coup de foudre, et aussi donc histoire où il va vraiment y avoir des cours de philosophie et tout ça, hein. Mais bon, ça va aller beaucoup beaucoup plus loin, et donc et on a des lettres, hein, qui ont été plus ou moins authentifiées, des lettres qui a été écrit après l'histoire, après que l'histoire se soit terminée tragiquement, où c'était vraiment une relation absolument torride, enfin, qui va d'ailleurs aboutir à ce que Héloïse tombe enceinte. Et quand le chanoine Fulbert, le tonton, va s'en rendre compte,
ouh là là, oui.
Oui, oui, gros problème. Et alors, c'est là où justement la figure d'Héloïse est vraiment passionnante, parce que ça nous met dans la tête d'une femme de caractère de cette époque-là. Il se trouve qu'on va exiger d'elle qu'elle se marie avec Abélard. Jusque-là, rien d'incroyable, mais elle va refuser. Pourquoi va-t-elle refuser? Et c'est ça qui est intéressant. Elle va refuser parce que, à l'époque, un professeur de philosophie et de théologie, s'il se mariait, s'il tombait amoureux d'une personne, était décrédibilisé auprès de ses élèves. Parce qu'un philosophe ne pouvait pas être détourné de la recherche de la vérité. Et avoir une vie domestique, avoir une vie amoureuse, ça le détournait. Et c'est la raison pour laquelle elle refuse ça. Hein, elle refuse de se marier avec lui. Ils seront mariés en secret et après, en fait, ils vont devoir s'enfuir. Et je suis obligée de faire court, je sais bien. Mais donc, il faut venir cet après-midi à la visite pour aller plus loin. Mais oui, je vous coupe.
Non, non, vous allez nous dire où est-ce qu'on peut trouver la tombe.
Oui, alors la tombe, je vous y amènerai cet après-midi, mais elle est donc pas très loin du cimetière, dans un carré juif. Et voilà. Et donc, quand même, il faut le dire, ces gens-là vont être séparés, puisque le chanoine Fulbert, apprenant tout ça et faisant connaître le mariage alors que Héloïse avait accepté d'être mariée, si c'était secret, hein, eh bien, il va tout détruire finalement, faire castrer Abélard. Eh oui, ça rigole pas.
Ah oui, donc ça, c'est moins qu'on puisse dire. Oui.
Voilà, et donc Abélard va se retirer au monastère de Saint-Denis, va demander à Héloïse de se retirer dans un monastère, ce qu'elle fait. Et là encore, deuxième point qui me paraît très important dans l'histoire d'Héloïse, c'est qu'elle a écrit à plusieurs reprises que finalement, si elle avait pris le voile, ça n'était pas par amour de Dieu, c'est parce que l'homme qu'elle aime le lui avait demandé.
C'est beau.
C'est quand même quelque chose, quoi. Alors on peut parler d'esprit de sacrifice, en tout cas. Et donc c'est quand même une femme très intéressante au XIIe siècle et d'une très grande liberté quand même d'esprit.
Voilà. Qui est enterrée donc au cimetière du Père Lachaise. Or, Juvenel, vous restez évidemment avec nous. Vous allez nous présenter une autre dame qui est enterrée dans ce cimetière. C'est Madame Sans-Gêne, qui était l'épouse d'un maréchal de Napoléon Ier. On va entendre tout ça juste après Harry Styles, Sign of the Times, sur France Bleu Paris, qui accompagne votre début de journée.
Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets.
Sur France Bleu Paris, le week-end est à vous.
Avec Aurore Juvenel qui est avec nous du site internet dédale.org.
C'est ça.
À l'occasion de la journée des droits des femmes, vous mettez des femmes qui sont à l'honneur, qui sont enterrées au cimetière du Père Lachaise et vous nous présentez Madame Sans-Gêne.
Absolument.
Mais c'est pas vous qui l'appelez comme ça. Hein.
Alors non, ça n'est pas moi, c'est un surnom qui a été donné par Victorien Sardou qui a fait une pièce de théâtre sur sa vie à la fin du 19e, mais on y reviendra. Alors voilà. On est au Père Lachaise, donc, et on continue notre trajet, on arrive dans le carré napoléonien. C'est-à-dire qu'il y a plein de maréchaux d'empire et de généraux napoléoniens. Et là, on se trouve en face, donc, justement, d'un mausolée très beau, tout ça. Et donc, c'est François-Joseph Lefebvre. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller tout derrière ce grand bâtiment, enfin, ce bâtiment. Mmh. Et il y a une toute petite inscription derrière, mais vraiment cachée, qui fait référence à sa femme, hein, Catherine Hubscher, et qui par contre, elle, est restée dans l'histoire sous le nom de Madame Sans-Gêne.
Mais pourquoi elle était appelée comme ça?
Alors, Madame Sans-Gêne, parce qu'en fait, à la base, c'est une lingère. C'est une repasseuse. Vous voyez, quand elle était plus jeune, elle faisait ça. Donc, elle est vraiment issue d'un milieu très populaire. Et elle est mariée avec le hussard, donc, François Lefebvre. Alors, mais au départ, il est pas maréchal. Au départ, il est hussard. Il est vraiment, j'allais dire troufion. Je sais pas si ça se dit, mais bref, il est tout en bas de l'échelle sociale. Et puis, petit à petit, il va faire, toutes les campagnes révolutionnaires avec Bonaparte. Et puis, ensuite, les campagnes napoléoniennes avec lui. Et il va se retrouver, assez rapidement, nommé à des postes, à des fonctions très hautes, jusqu'à devenir maréchal de France. Donc il arrive à la cour avec sa femme Catherine Hubscher, qui s'appelle comme ça, hein, et qui, elle, savait pas lire, savait pas écrire, voilà. Enfin, elle était dans... Et donc il y a un énorme décalage qui s'est créé là, et elle a décidé de s'assumer. Sauf qu'il faut s'imaginer qu'elle était là avec des femmes qui avaient tous les codes, qui avaient une très belle éducation.
Du parfum aussi.
Alors sans doute, et voilà. Et donc elle décide de s'assumer. Il y a une anecdote qui est rigolote, qui raconte qu'un jour on lui amène une bibliothèque dans ses appartements et elle dit mais à quoi donc que c'est bon? Et on lui répond c'est une bibliothèque, c'est pour mettre des livres. Et elle était là, oui mais moi ça m'intéresse pas. Et elle a dit bon bah je vais mettre des corbeilles de fruits dedans. C'est pour montrer le décalage.
Hein. Ah oui.
quand même. Et donc, elle, par contre, elle a bien compris qu'elle pourrait pas concurrencer toutes ces femmes qui étaient éduquées depuis si fort longtemps et tout ça. Et concrètement, bon, bah voilà, elle va même aller dire à Napoléon ce qu'elle pense. Et c'est d'ailleurs pour ça que Napoléon l'appréciait, hein. Et ça suscitait quelques jalousies. Et il va se trouver qu'avec son mari, ils vont être les premiers ducs d'Empire. Et c'est comme ça qu'elle va devenir, duchesse de Dantzig. Et c'était la première fois que ça arrivait. Et du coup, grosse jalousie au sein de la cour. Et il y a une anecdote qui raconte que une femme de la cour va voir Napoléon et lui dit « Mais comment sa majesté a pu laisser tomber le titre de duchesse sur cette pauvre femme ?» Et là, lui, il aurait répondu « Il m'a plu au contraire d'élever le titre jusqu'à elle. » Voilà. Et de là vient son nom. C'est très beau. Et pour faire court, ce surnom de Madame sans gêne, en fait, il a été volé à une autre femme qui était Marie-Thérèse Figuer, soldate pendant les campagnes napoléoniennes, mais voilà, faudra venir à la visite cet après-midi.
Qui est à 15h d'ailleurs, hein, au Père Lachaise. Vous allez mettre une autre femme à l'honneur à l'occasion de cette journée des droits des femmes. C'est Gerda Tarot qui est la première photo reporter qui est enterrée au cimetière du Père Lachaise. Qui est d'ailleurs, on a effacé son nom sur sa tombe. Vous allez nous en dire plus juste après. Les Rita Mitsuko, Marcha Baila sur France Bleu Paris.
Show them possible, red and black, what he and what I commit to say. est immense quand tu souris et quand tu
Marcia Baila, les Rita Mitsouko sur France Bleu Paris à l'occasion de ce Woman in Music Days de 19h30 à 20h. France Bleu part en live 100% féminin avec une reprise de Catherine Ringer de Marcia Baila en version live que vous pourrez entendre sur France Bleu Paris.
Sur France Bleu Paris, le week-end est à vous.
Et c'est Aurore Juvenel qui est guide pour Dédale qui nous accompagne à l'occasion de cette journée des droits des femmes. Aurore, on continue de mettre à l'honneur les femmes qui sont enterrées au Père Lachaise avec une qui particulièrement vous a marqué, c'est Gerda Tarot, la première photoreporter.
Absolument. C'est une femme extrêmement intéressante. C'est une pionnière en photojournalisme qui est la première photoreporter qui a été tuée au combat. Ça se passe pendant la guerre d'Espagne. Qui opposait républicains et nationalistes entre 36 et 39. Et donc au Père Lachaise, sa tombe est tout à côté du mur des fédérés. C'est une tombe qui est toujours fleurie. Il y a toujours des décorations. Enfin, il y a du passage dessus vraiment. Et il faut savoir que la tombe en elle-même et la colombe qui est dessus, elle a été faite par le sculpteur Alberto Giacometti. Donc c'est pas absolument n'importe qui. Et d'ailleurs,
Giacometti, pas mal de personnes le connaissent.
Un certain nombre. Et cette femme meurt en 1937, donc elle a 26 ans. Hein, et il se trouve que son enterrement va devenir une manifestation antifasciste en elle-même. Il va y avoir des milliers de personnes qui viennent. Et l'oraison funèbre va être faite par Pablo Neruda et par Louis Aragon. Donc c'est pas absolument rien. Et cette femme-là, quand même, comme vous l'avez dit juste avant, sur sa tombe, donc il y avait une inscription qui disait journaliste reporter à ce soir tué.
Elle a été effacée.
Elle a été effacée au moment de la collaboration en 1942, au même moment où un tout petit peu plus haut dans le cimetière, il y a la tombe d'un certain Drummond, hein, antisémite notoire, qui lui, en fait, il y a eu une inscription carrément qui a été marquée sur sa tombe en son honneur, mais l'inscription rendant hommage à Gerda Tarot a elle été effacée au moment de la collaboration, mais depuis, hein, elle a été refaite. Donc cette femme-là est une femme vraiment, vraiment très intéressante. Les photos qu'elle a prises, c'est le premier photoreporter engagée, c'est-à-dire du côté des républicains, du côté des brigades internationales, qui étaient les soldats, les volontaires internationaux pour aider les républicains contre le coup d'État nationaliste. Et elle va documenter ça pour un journal. Et elle y va d'ailleurs, et je n'y viens que maintenant, mais c'est volontaire, elle y vient avec son compagnon de l'époque qui est Robert Capa. Le photographe Robert Capa. Et il faut bien dire une chose, c'est que Robert Capa n'aurait jamais atteint la célébrité qu'il a obtenue sans Gerda Tarot, qui lui a trouvé donc son surnom, parce qu'en fait il s'appelait André Friedman, qui lui a donné tout un tas d'idées pour mentir sur son CV pour être engagé. Bon, et cette femme va finalement mourir tragiquement lors d'une retraite. Et quand elle va rentrer, on va l'enterrer au Père Lachaise et ça fera la cérémonie que je vous ai dite.
Et tout ça, c'est donc au cimetière du Père Lachaise. Vous organisez une visite à partir de 15h.
15h, oui.
Le rendez-vous, c'est au Père Lachaise, je suppose.
Oui, l'entrée boulevard Ménilmontant, entrée principale boulevard Ménilmontant, pardon. Mais toutes les infos sont sur mon site dédale.org.
Eh bien justement, dédale.org, vous proposez... Évidemment, pas que des visites au Père Lachaise.
Non, je propose tout un tas de visites. Je propose aussi une visite qui s'appelle Paris à feu et à sang, qui est sur le Paris des révoltes et des émeutes. Je fais un Paris littéraire, je fais un Lutèce et ses histoires de fesses.
Oui, très bien, continue.
Je fais mes 68 au quartier latin, des zingues et des zigues à Montmartre. Enfin, je fais beaucoup, c'est des visites thématiques.
En tout cas, ça plaît beaucoup à Pierre-Antoine Lefort qui va nous rejoindre dans quelques instants pour les informations.
Super.
Merci beaucoup, Aurore Juvenel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes guide pour le site internet dédale.org où on peut retrouver évidemment tous les renseignements si on veut assister à cette visite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'occasion de cette journée des droits des femmes. Passez une très belle journée, Aurore.
Au revoir. France Bleu.